Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des centaines de tracteurs dans Paris ce matin. Nouvelle action des agriculteurs quand d'autres sont en passe d'être délogés. Les ultras de l'A64 près de Toulouse. L'avenir politique de Marine Le Pen en question ce matin à quelques heures de l'ouverture de son procès en appel des assistants parlementaires du FN. Et Paris battu par Paris. Le PSG quitte la Coupe de France, éliminé dès les 16e de finale par le Paris FC.
Les agriculteurs de retour à Paris.
Après les blocages et les barrages filtrants hier, plusieurs centaines de tracteurs, je vous le disais, ont gagné tôt ce matin les rues de la capitale. Action d'une branche de la FNSEA qui roule en direction de la place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale, et au sein du cortège. Amélie Courtet, en direct pour RMC, vous êtes aux côtés de ces agriculteurs venus défendre une souveraineté alimentaire en danger et réclamer des actes concrets au gouvernement, Amélie.
Oui, là, impossible de voir le bout de cette file de tracteurs. Ils sont désormais plus d'une centaine d'agriculteurs encadrés et surveillés toujours par plusieurs camions de CRS. Les tracteurs font en ce moment lentement le tour de l'Arc de Triomphe et se dirigent vers la place de la Concorde en toute discrétion, à coups de klaxons, des pétards à l'instant, leur gyrophare orange clignote et on lit donc sur une pancarte « Ras-le-bol des contraintes ». J'étais dans un tracteur avec Thibaut, venu de l'Oise. Lui est allé jusqu'à Bruxelles, a participé à des opérations de péage gratuits et il veut encore se battre aujourd'hui pour obtenir des actes concrets de la part du gouvernement, marre des promesses. Si on ne monte pas à Paris, on n'aura jamais rien. On est asphyxié par ces normes. On n'en peut plus, me soufflait-il.
Amélie Courtet, en direct de Paris ce matin. Les ultras de loi 64, eux, à l'autre bout de la France, sont en passe d'être délogés. Plusieurs centaines de CRS sont arrivés sur place tôt ce matin afin de procéder à l'évacuation de ce barrage près de Toulouse, présent sur place depuis un mois. Jérôme Bail, leader du mouvement, fait part de sa colère sur RMC.
Une belle surprise, j'ai mes amis qui dormaient sous le pont de l'autoroute et il y a 300 CRS qui ont été les réveillés à 4h20 du matin, ils sont avec les centaures, ils cassent tout. Là, les centaures, ils ont écrasé une barrière de sécurité, ils sont tellement courageux qu'ils ont bloqué tous les accès, ils ont fermé l'autoroute à 25 km de carbone et tout pour pas qu'il y ait le déraillement, qu'il y ait des gens qui viennent sur le blocage. Et le préfet, qui a même pas eu le courage de nous appeler pour nous dire, essayer de négocier avec nous, donc c'est une honte.
Et d'autres actions sont en cours du côté de La Rochelle où un dépôt pétrolier est bloqué depuis hier matin. Les agriculteurs sont priés par le préfet de plier bagages ce matin ou plus tard. Des perturbations limitées ce mardi sur les rails en Île-de-France et en Occitanie, conséquence d'un appel à la grève lancé par deux syndicats de cheminots qui s'annoncent peu suivis. Marine Le Pen, de retour devant la justice, rejugée avec 11 autres co-prévenus pour détournement de fonds publics, procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité provisoire. L'ancienne chef de parti, soutenue par Jordan Bardella, devra, en cas de nouvelle condamnation, tirer un trait sur une quatrième candidature à l'élection présidentielle. Mais pour l'heure, Romain Cluzel, Marine Le Pen se veut combative, convaincue d'une issue positive.
Et la triple candidate à la présidentielle ne veut pas baisser les bras. Marine Le Pen affirme vouloir dire la vérité et être mieux comprise par les juges.
Je suis comme toute personne qui fait appel, pleine d'espoir. C'est une nouvelle juridiction avec de nouveaux magistrats. L'affaire va être remise à zéro en quelque sorte. J'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence.
Convaincre, c'est justement ce que n'a pas réussi à faire Marine Le Pen en première instance. Si sa peine pour détournement de fonds publics à 5 ans d'inéligibilité est confirmée, elle devra tirer un trait sur la présidentielle en 2027. Mais le député Laurent Jacobelli veut se rassurer. Une autre figure du parti a émergé depuis, Jordan Bardella.
Oui, on a un duo avec Jordan Bardella et Marine Le Pen et nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Notre scénario, c'est Marine Le Pen candidate et Jordan Premier ministre. Mais nous sommes prêts à toute éventualité si jamais un obstacle venait à arriver sur notre route.
Et Marine Le Pen anticipe déjà le choix du ou de la candidate se fera dès le mois de juin, juste après l'annonce de la décision de la Cour d'appel.
La mort d'une ancienne figure du nationalisme corse, Alain Orsoni, exilé au Nicaragua. L'ancien dirigeant du club de foot d'Ajaccio de 71 ans était de retour sur l'île pour les obsèques de sa mère. C'est là qu'il a été abattu d'une balle en plein cœur hier après-midi. Le nouveau parquet national anticriminalité organisé est co-saisi de l'enquête.
7h05 sur RMC. Le Louvre fermé hier et la grève se poursuit.
Une nouvelle journée de débrayage des salariés. Ils dénoncent la détérioration de leurs conditions de travail plus de 3 mois après le casse du musée. Début des interrogatoires ce mardi pour les 4 cambrioleurs présentés à un juge d'instruction. L'enquête, elle se poursuit. Si le butin reste introuvable, les enquêteurs Constance Bostoen ont pu retrouver le lieu où les malfaiteurs se sont rendus à l'issue du cambriolage.
Oui, selon les informations de BFM TV, lors de l'interpellation d'un des cambrioleurs présumés du Louvre, les enquêteurs le fouillent et saisissent dans l'une de ses poches une mystérieuse clé. Cette clé les mène à un ancien local vélo à la Courneuve en banlieue parisienne où l'homme s'était connecté sur le réseau Wi-Fi peu après les faits. Les policiers de la brigade de répression du banditisme qui mènent l'enquête pénètre dans ce local. Il découvre un établi, une disqueuse, une perforeuse, un brouilleur et des outils de serrurier y sont entreposés. Plus intéressant encore, des pierres destinées au test de l'or sont également découvertes. Cette nouvelle avancée dans l'enquête permet d'étayer la thèse selon laquelle le commando du Louvre était préparé, alors que les joyaux de la couronne n'ont pour l'heure pas été retrouvés.
Plus de 600 morts. Dernier bilan largement revu à la hausse du nombre de victimes de la répression en Iran. Selon une ONG, des rassemblements favorables au régime ont été organisés hier à Téhéran à l'initiative du pouvoir en place, toujours menacé par Donald Trump, le président américain, qui annonce la hausse de 25% des droits de douane pour tout pays commerçant avec l'Iran.
Et puis, grosse surprise hier soir en Coupe de France.
Défaite et élimination. Surprise du Paris SG dès les 16e de finale de la compétition, battu 1-0 par le Paris FC dans le derby de la capitale. Chute à domicile pour le double tenant du titre. Le PSG quitte la compétition prématurément, Jérôme Sillon.
Depuis 20 ans, seul le Montpellier de Roland Courbis en 2014 avait réussi à éliminer le PSG en Coupe de France avant les huitièmes de finale. L'exploit du Paris FC est à la hauteur de la désillusion du Paris Saint-Germain. Malgré 25 tirs et 70% de possession, les joueurs de Luis Enrique ont manqué d'efficacité. Un avertissement pour l'entraîneur du PSG.
Si tu regardes les résultats, peut-être c'est que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieurs. C'est comme ça le football, ce n'est pas juste.
Depuis l'arrivée de Luis Enrique à l'été 2023, jamais le Paris Saint-Germain n'avait été éliminé aussi tôt d'une compétition. Un événement qui doit appeler un réveil selon le milieu de terrain, Seni Mayulu.
Là on se prend une claque, c'est une défaite, mais là maintenant on passe à autre chose. On veut reprendre la première place dans ce championnat, du coup on va rebondir, on va se redonner à fond à l'entraînement. On va tout faire pour remporter tout le reste des compétitions.
À 3 jours de recevoir Lille et à 1 semaine du retour de la Ligue des Champions, le PSG a besoin de retrouver son meilleur niveau, à commencer par ses stars Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, encore décevantes hier soir.
Et suite et fin de ces 16e de finale, ce soir 21h sur RMC, l'OM se déplace à Caen face au petit poussé de la compétition, Bayeux, club de 6e division. Les joueurs de l'OM porteront un brassard noir, hommage à Roland Courbis, décédé hier à 72 ans, ancien footballeur, entraîneur de l'OM de Bordeaux et bien sûr consultant pendant plus de 20 ans sur RMC, occasion pour Christophe Dugarry de se souvenir, l'ancien Girondin, s'est remémoré dans Rotten sans flamme, une causerie mythique du coach Courbis.
Roland, quand il parlait, il y avait la chemise toujours un peu plus ouverte, et avec les chaînes et tout, et tellement il devenait tout rouge, il s'énervait, il tape fort sur la table et tout ça. Et à un moment, il y a un calme, et là, t'entends un P. T'entends. Et là, tout le monde se retourne, et c'est Zizou qui fait un P. Et là, t'as Roland qui était rouge comme une écrevisse, et il le regarde, il lui dit, le principal, c'est que tu te chies pas dessus ce soir.
Roland Courbis dans toute sa splendeur qui avait trouvé d'ailleurs le surnom de Zizou pour Zinedine Zidane.
C'est Zizou, on le lui doit. Vous êtes bon. Très nombreux à réagir. Nicolas est avec nous au 32-16 qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Nicolas. Oui.
Bonjour.
Nicolas, chauffeur routier, accompagné dans la voiture, dans le camion, par la voix de Roland Courbis quoi.
Oui, tout à fait.
Ça, on a tous été. Là, vous êtes où Nicolas?
Là, je suis pas loin de. Je suis dans l'Occitanie, je suis à Gaillac, là, j'attends pour livrer ce matin.
À Gaillac, et alors, franchement, si vous êtes sur les routes dans ce coin-là, est-ce que vous le savez, hein, il y a les agriculteurs qui continuaient depuis un mois à bloquer la 63, et au moment où on se parle, alors, on est tenus à distance, hein, nous les journalistes, les évacuations sont en cours, les CRS sont arrivés, semble-t-il, pour évacuer. Vous réagissez comment à ça, Nicolas ? 64, évidemment.
Alors, je suis très choqué. Très ému par ce qui se passe et très en colère parce que le barrage de Carbone, c'est un symbole de cette action. Ça fait plus d'un mois qu'ils y sont, ils y étaient déjà il y a deux ans. Et vraiment, je suis très en colère de ce qui se passe. Déjà que les journalistes n'aient pas le droit d'aller sous le pont pour voir ce qui se passe, d'être tenus à l'écart comme ça, on se dit mais dans quel monde on est. Et je me demande si c'est un bon calcul de la part du gouvernement d'agir comme ça, de passer en force sur les agriculteurs, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui c'était Carbone. Et je crois aussi que le barrage à La Rochelle, ils ont jusqu'à la fin de matinée, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure,
exactement,
le préfet a dit qu'il devait partir aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui le gouvernement a décidé de taper un grand coup et de balayer tous les agriculteurs qui manifestent leur désarroi. Mais ce que comprend pas le gouvernement, excusez-moi, c'est que c'est le désarroi des Français qui exprime les agriculteurs.
Ça vous émeut?
Oui, ça m'émeut, ouais, parce que je sais pas si on se souvient, vous en avez pas parlé, mais il y a 50 ans, il y a eu une manifestation agricole qui a très mal tourné justement en Occitanie.
Ouais.
C'était le 4 mars 1976 à Montredon, où il y avait eu une fusillade entre les agriculteurs qui, par leur désarroi, avaient sorti leurs fusils et les forces de l'ordre. J'espère que ça va pas tourner comme ça. Il faut bien comprendre ce que vivent les agriculteurs et le monde paysan en France. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que on tire la sonnette d'alarme. Moi, j'étais dans le monde agricole avant. Ça fait 3 ans que je suis chauffeur routier.
Vous avez quitté le monde agricole.
J'avais un centre équestre rural. Pas les centres équestres qu'on voit en région parisienne, etc. Donc un petit centre équestre. Pareil, on a manifesté beaucoup les centres équestres.
Je sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens très bien.
J'étais passé pas mal de fois pour dire le salaire et qu'on se touchait quand on arrivait à se verser 600 euros par mois.
C'était le Graal, quoi.
Et du coup, j'ai dû fermer suite.
Vous vous dites, Nicolas, que cette fois-ci, vous redoutez d'abord que ça tourne mal, mais vous redoutez aussi qu'on les comprenne pas, qu'on les entende pas.
Qu'on les comprenne pas et qu'on comprenne pas les Français. Et qu'après, il faut pas s'étonner. Moi, je vais faire un lien. Alors, je sais pas si je peux. Hein. J'ai jamais voté extrême droite, et parce que pour moi, c'est pas du tout mes valeurs. Mais j'en suis à un point là où je me dis, on ne nous comprend plus de toute façon, et pourquoi pas aller voter RN aux prochaines élections, alors que ce n'est pas du tout mes valeurs.
Mais franchement, c'est intéressant ce que vous dites, Nicolas, parce que c'est vrai que le monde agricole, qui jusqu'à présent d'ailleurs était une sorte de dernier bastion qui ne votait pas RN, contrairement aux ouvriers par exemple, où c'est devenu le premier vote des ouvriers, le bastion paysan était plutôt traditionnellement de droite, mais d'une droite LR, disons. Et pour la première fois, effectivement, le vote RN est, semble-t-il, en train de devenir majoritaire chez les paysans. Merci, Nicolas, en tout cas, d'avoir appelé au 32-16. On a entendu l'émotion dans votre voix. On sent que vous revivez aussi ce que vous avez vécu quand vous avez été obligé de fermer le centre équestre. Nicolas qui nous appelait donc de la route. Je vous redonne cette information de la nuit. Le rond-point sur l'A64 qui est en ce moment même en train d'être évacué par les forces de l'ordre. Il est 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vol, menace, agression, dégradation, exclusivité RMC, les patrons des commerces et des petites entreprises n'en peuvent plus. Marc Sanchez est avec nous, bonjour. Vous représentez les indépendants, les petites entreprises, ces incivilités, elles sont en hausse et elles pèsent sur l'activité. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h17 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. Voilà une exclusivité qu'on vous révèle ce matin. Plus de 2 patrons de petites entreprises sur 3 constatent une hausse des incivilités. Bonjour Marc Sanchez.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des petites entreprises. C'est vous qui avez mené cette étude auprès de vos adhérents. Et votre parti pris ce matin, c'est que ces incivilités, non seulement elles sont insupportables et elles polluent le quotidien des commerçants, des patrons de petites entreprises, mais en plus elles coûtent cher. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle? Quand on dit incivilité, on parle de quoi?
Bah écoutez, c'est dégradation des biens, atteinte aux personnes, vol, vandalisme, c'est tout ce genre de choses en fait qui aujourd'hui ont un impact économique de plus en plus important pour beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales. En tout cas, c'est un des éléments que nous constatons de manière assez importante et de plus en plus constante au fur et à mesure de tous les baromètres qu'on peut publier depuis déjà presque 2 ans.
Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ça fait des années et ça ne s'améliore pas, bien au contraire. La première incivilité dénoncée, c'est donc le vol. 35% des petits commerçants et des entreprises que vous avez interrogées disent que les vols ont augmenté. Ça nuit évidemment au chiffre d'affaires, ça nuit aussi à la fréquentation des magasins. Racontez-nous ce que vous disent et ce que vous racontent les commerçants.
En fait, c'est vrai que l'insécurité en tant que telle, c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est la première préoccupation des Français dans le cadre des prochaines élections municipales. Je crois qu'il y a un sondage.
Je précise effectivement les choses comme vous le dites. Jusqu'à là, ces derniers mois, ces dernières années, le pouvoir d'achat était la première préoccupation. Et dans les tout derniers sondages depuis quelques semaines, c'est l'insécurité qui est devant la question du pouvoir d'achat.
Tout à fait, oui. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, ce sujet, c'est plus un sujet périphérique ou de simples faits divers. C'est vraiment devenu, dans nos entreprises, un paramètre économique à part entière pour beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales. Alors, concrètement, effectivement, cette problématique, elle génère des coûts directs qui sont très concrets pour les entreprises, que ce soit par l'installation de caméras de vidéosurveillance, d'alarme, d'abonnement à des sociétés de protection aussi, des renforcements aussi des coûts des assurances suite aux différentes dégradations qui peuvent être constatées. Et on a évalué dans notre dernier baromètre sur ce sujet un budget qui correspond à peu près entre 1 000 et 6 000 euros par an pour chaque entreprise qui a répondu et qui effectivement, dans le cas des marges fragilisées aujourd'hui de beaucoup de TPE, pèse énormément sur l'activité.
Ce qui pèse effectivement, c'est d'abord de devoir s'équiper, comme vous le dites, mais c'est aussi le manque à gagner, j'imagine.
Ça c'est la deuxième conséquence, effectivement, les coûts indirects, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut constater des baisses de fréquentation, un recul de la consommation, des clients qui évitent aussi certains quartiers ou certains horaires, ce qui amène d'ailleurs certaines entreprises commerciales parfois à réduire leurs horaires d'ouverture. Elles ferment plus tôt, alors soit parfois pour effectivement protéger leurs propres salariés ou protéger même le dirigeant, voire même certaines qui décident de renoncer à ouvrir carrément. Et donc forcément, ça a un impact sur la fréquentation et sur le chiffre d'affaires de ces entreprises.
Merci beaucoup d'avoir alerté ce matin Marc Sanchez. Donc vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des petites entreprises. Je voudrais que vous qui nous écoutez, si vous êtes commerçant, appelez-nous pour nous dire si vous êtes vous-même confronté à ces incivilités, à ces vols, à ces agressions. On vous attend au 32-16. Il est 7h21 sur RMC. Et pendant ce temps-là, l'historien du matin, Arthur Chevalier, est entré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, encore une centaine de tracteurs en route pour la place de la Concorde et la place de l'Étoile. Au moment où l'on se parle, ils sont en train d'arriver sur la place de l'Étoile. Et Arthur, vous avez retrouvé un précédent coup d'éclat de ce syndicat agricole, la FNSEA, très puissant.
Oui, en 1961, les agriculteurs avaient déjà pris d'assaut la sous-préfecture de Morlaix, dans le Finistère. Un coup de force pour dénoncer la faiblesse du prix des produits agricoles déjà à l'époque.
Vous nous racontez cet épisode. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
7h22, RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, la FNSEA a donc appelé les agriculteurs à rouler sur Paris ce mardi pour protester contre le Mercosur notamment et sur la souveraineté alimentaire. Un appel à la mobilisation assez musclé, et ça détonne plutôt avec les dernières prises de position de la FNSEA. Hein.
Ben oui, puisque comparé à la coordination rurale, la FNSEA, c'est un peu la voie de la raison. Hein. Le dialogue, la modération, la négociation, tout ça d'habitude, c'est son créneau. Mais là, le ton monte, et quand on regarde de près, la FNSEA n'a pas toujours été aussi raisonnable.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à une époque, ce syndicat n'était pas si conciliant?
C'est le moins qu'on puisse dire, Apolline. Dans les années 60-70, la FNSEA, ça plaisantait pas, et ce matin, je vous raconte un épisode très marquant. Nous sommes en 1961 et à l'époque, le problème, c'est la chute du cours des légumes. Donc évidemment, ça a entraîné une baisse des prix, de la surproduction et donc un appauvrissement des agriculteurs. Le gouvernement était impuissant, exactement comme aujourd'hui. Donc, les producteurs haussent le ton, la révolte gronde, les barrages se multiplient. Et le 8 juin 1961, au petit matin, 3000 agriculteurs encerclent la ville de Morlaix, en Bretagne. et sans que personne ne s'y attende, ils donnent l'assaut sur la sous-préfecture.
Personne ne les arrête ?
Eh bien non, dans un premier temps, personne ne les arrête. Hein. Donc les agriculteurs enfoncent la porte, s'engouffrent dans le bâtiment, évidemment ça fait un boucan d'enfer. Donc là-dessus, le sous-préfet se réveille, il descend, et là, il tombe nez à nez avec les manifestants. Des manifestants qui ne manquent pas d'humour, puisque l'un d'eux s'excuse auprès du sous-préfet d'avoir forcé la porte en disant « Monsieur le préfet, tout ça ne serait pas arrivé si on avait eu la clé ». Ce qui n'a pas fait beaucoup rire le préfet, qui a paniqué, qui s'est enfui par une porte de derrière pour aller prévenir les gendarmes.
Qu'est-ce qu'ont fait les manifestants une fois qu'ils étaient à l'intérieur de la préfecture ?
Eh bien, figurez-vous qu'ils se sont installés et qu'ils ont pris un petit déjeuner. Et oui,
ils, bah oui, tôt, raison.
Ils ont pris le petit-déj dans la bonne humeur. Il a fallu attendre une heure pour que le gouvernement se décide à agir. On envoie 150 CRS depuis la ville de Saint-Brieuc. À côté, des guetteurs postés sur les routes préviennent leurs copains qui occupent la sous-préfecture. Du coup, les manifestants quittent les lieux. Ils se rassemblent sur une place de la ville où là, ils tiennent un meeting. Imaginez un peu l'effet sur les habitants.
Ils ont été arrêtés ?
Oui, les CRS embarquent la troupe. Certains seront jugés. Jugés, oui, mais relaxés. Les meneurs deviennent de véritables héros hein, en Bretagne. Une région où, pendant ce fameux mois de juin 1961, on a dénombré plus de 100 mouvements de contestation agricole. Quant aux leaders de la prise de la sous-préfecture, ils s'expliqueront en disant qu'il s'agissait d'alerter les pouvoirs publics avec une action coup de poing. Mission accomplie, puisque la France n'a parlé que de ça, ou presque, pendant un mois. Et déjà, le mouvement avait suscité un grand élan de sympathie.
Histoire surprenante et qui fait effectivement écho à l'actualité. Je précise à 7h25 qu'en ce moment même, les barrages de l'A64, les ultras, autour notamment de la figure de Jérôme Bail, sont en train d'être délogés après un mois où ils étaient installés sur l'autoroute. Les journalistes sont tenus à distance. Jean-Wilfried Forquès, notre envoyé spécial, il est sur place, il voit de loin... Il nous racontera tout dans le journal de 7h30. Mais tout de suite, Arnaud Demanche. Avec
Demanche pirate, le face-à-face.
Avec un petit piratage, de mon invité à 8h30. Je reçois le maire de Nice, Christian Estrosi.
Oui, Christian Estrosi, qui a un point commun avec les surveillants de Bétarame. Lui aussi veut battre un enfant.
Mais je ne suis pas un enfant, je suis Éric Ciotti, le futur maire de Nice. Chut.
Laisse parler les adultes. Car Apolline, les municipales approchent et Christian Estrosi, élu 4 fois, est challengé par Éric Ciotti à Nice. C'est son ancien directeur de cabinet qui veut le grand remplacer. Il veut tuer le père. C'est une tragédie grecque, ça, Apolline. C'est Brutus qui tue César. C'est Judas qui dénonce Jésus. C'est Daniela qui trahit Nabila dans la saison 2 des Anges de la télé-réalité. Vous vous souvenez tous, certainement. Totalement. Je ne ferai pas l'injure c'est de vous rappeler ce qui s'était passé. Bref, c'est une campagne à suivre sur notre chaîne spéciale RMC Sport de Combat. D'ailleurs, Christian Estrosi s'entraîne à claquer le beignet à Éric Ciotti. Lui aussi, il a acheté une poupée chine. Il lui a rasé la tête.
Non.
Et il lui met des petites tartes. Alors, on veut se présenter, hein, on veut battre papa. Bah alors, après si Éric Ciotti devient maire de Nice, j'ai gardé juste des claques sur la poupée chine, je suis pas allé plus loin. Après si Éric Ciotti devient maire de Nice, la ville va changer de visage, hein, évidemment, c'est sûr. Il a déjà prévu de renommer la promenade des Anglais en embarcadère des Algériens.
Ah oui.
Ça va aller très vite.
Voilà.
Alors on parlera évidemment du budget. On en a toujours pas.
Non.
C'est emmerdant pour nous. On sera pas de quoi sera fait le futur.
Ouais.
Après le futur à Nice, pour les Niçois, c'est tenir un an supplémentaire en fait. C'est pas très important. Non, parce que ils ont l'air en forme comme ça parce qu'ils sont bronzés, mais sous le mini slip en spandex qu'ils mettent à la plage. Oui, ça je vous conseille d'aller à la plage à Nice, voir un type de 90 ans orange en string brillant qui essaye de marcher sur des galets sans se péter une hanche. Vous verrez ça nulle part ailleurs. Hein. Sous le bikini.
Vous trouvez-vous
mais je suis allé à Nice et je suis allé à la plage et j'ai vu voilà que sous le bikini, il y a toujours un mélanome ou une hanche artificielle et il faut se méfier du coup, faut dépenser intelligemment. Comment ils vont gérer leur budget avec autant d'incertitudes les Niçois ? Comment ils vont financer leurs biens de première nécessité comme le Botox, la nourriture pour caniche agressif ou le Viagra dont ils ont tous besoin ? Autre sujet majeur ce matin, c'est le début du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire du détournement de fonds du Parlement européen. Jordan Bardella ne fait pas partie des prévenus. Il a déclaré « Je n'ai jamais détourné de fonds du Parlement européen. Je suis même jamais allé au Parlement européen. Pourtant, je suis élu, c'est vous dire si je suis prudent. » Et c'est une bonne semaine pour Bardella, hein. Procès de Marine Le Pen, condamnation du vieux qui lui a acheté un œuf et pénurie au niveau des œufs, les planètes s'alignent. Ça se goupille bien pour le RN, les histoires doivent être contents.
Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20, il est 7h28 sur RMC. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Abattu aux obsèques de sa mère d'une balle en plein cœur par un tueur posté dans le maquis. Le point sur les premiers éléments de l'enquête après la mort hier de la figure du nationalisme corse Alain Orsoni. 350 tracteurs ont rendez-vous dans Paris ce matin quand d'autres sont en passe d'être délogés sur l'A64 dans le sud-ouest. Et puis Marine Le Pen au premier jour du reste de sa vie, jugée en appel dans un procès crucial qui déterminera si oui ou non elle peut se présenter en 2027.
C'est un scénario digne des grands films de la mafia qui s'est déroulé hier en Corse.
Alain Orsoni, tué par balle dans son village natal du sud de l'île où il venait tout juste de rentrer depuis le Nicaragua pour les obsèques de sa mère, l'ancien président de la CAJACCIO, figure du nationalisme corse, est quasiment mort sur le coup sous les yeux de la soixantaine de personnes présentes lors des funérailles. Constance Bostoen.
Oui, on est en plein cœur de l'après-midi sur les marches du cimetière de Véro à flanc de colline. Alain Orsoni se recueille sur la tombe de sa mère juste après la cérémonie quand il est pris pour cible. Un tir l'atteint en plein cœur, selon Nicolas Sept, le procureur d'Ajaccio.
Il résulterait qu'il ait été touché par un tir à longue distance. Il est décédé des suites de ses blessures assez rapidement.
Selon nos informations, l'hypothèse est que le tireur était embusqué dans le maquis posté sur une colline en face du cimetière. C'est ce que l'enquête doit désormais confirmer.
Les constatations d'usage ont commencé avec les techniciens en investigation criminelle. Le recueil des indices et témoignages est en cours.
Le procureur d'Ajaccio a également annoncé être dessaisi de cette enquête qui est menée désormais par la juridiction spécialisée de Marseille et le tout récent parquet national anticriminalité organisée.
Il est 7h33 et les tracteurs sont de retour dans Paris ce matin à l'appel cette fois de la FNSEA, premier syndicat agricole. Ils sont environ 350 en route pour la place de la Concorde, une manifestation autorisée par la préfecture. Contrairement au barrage filtrant qui dure depuis maintenant un mois sur l'autoroute A64 en Haute-Garonne, barrage en passe d'être levé par les forces de l'ordre qui sont arrivées tôt ce matin à Carbonne. C'est là que l'on vous retrouve, Jean-Wilfried Forquès, en direct pour RMC. Jean-Wilfried, les agriculteurs sont désormais encerclé par un gros dispositif policier.
Oui, c'est ça. 200, 300 gendarmes qui sont sur place depuis 4h20 ce matin avec des engins. Nous sommes bloqués à ce rond-point, à environ 300 mètres du point de barrage. C'est une opération qui se fait à huis clos, sans la présence des caméras et des photographes. On est avec le maire ici de Carbonne, Denis Turel. Bonjour.
Bonjour.
Opération qui se fait à huis clos. Quelles sont les informations qui proviennent du barrage que vous avez ?
Pour l'instant, les informations que j'ai, c'est que le dispositif est en train de se tendre, vu que les ultras souhaiteraient que le préfet vienne discuter avec eux pour avoir une sortie négociée et apaisée.
Pour l'instant, ils n'ont pas été délogés.
Pour l'instant, ils n'ont pas été délogés. Pour l'instant, il y a la directrice du cabinet qui semble être sur place, mais qui semble ne pas entendre grand-chose dans le débat. Et on est à l'image de ce qui se passe, c'est-à-dire aucune information aux élus sur, et en tout cas au maire que je suis, sur ce déploiement. La presse n'y a pas accès. Moi, je n'y ai pas accès, vu que j'ai été refoulé tout à l'heure. Il y a une disproportion entre la responsabilité des agriculteurs et les moyens que la préfecture met en œuvre.
Voilà, début d'opération, donc 4h20 ce matin, mais pour l'instant, les agriculteurs sont toujours ici à 300 mètres dans ce barrage, et pour l'instant, l'intervention n'a pas eu lieu.
Jean-Wilfried Forquès en direct de l'A64 au niveau de Carbonne pour RMC. Il est 7h35 et Marine Le Pen joue gros à partir d'aujourd'hui avec le début de son procès en appel pour détournement de fonds publics européens. Procès qui va durer un bon mois et à l'issue duquel la patronne des députés RN saura si oui ou non elle peut se présenter à l'élection présidentielle de 2027. En première instance, elle avait été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, une mesure qui inquiète beaucoup ses électeurs, rencontrés à Camaret-sur-Aigle dans le Vaucluse par Lionel Dian.
À l'intérieur des remparts de Camaret-sur-Aigle, le RN ne souffre aucun rival. Et si une décision de justice empêche Marine Le Pen de se présenter en 2027, Michel, jeune retraité, se fera une raison.
Monsieur Bardella, qui risque d'être à la suite de Madame Le Pen, voilà, bon, évidemment, il est jeune, c'est sûr, mais bon, j'espère qu'il a les épaules assez solides pour assumer cette fonction qui est très lourde.
Marc, militant RN depuis la première heure, lui affiche clairement sa confiance en Jordan Bardella.
Jordan Bardella, c'est le plan B du Rassemblement National. Et je trouve que
c'est un bon plan.
De toute façon, pour Véronique, employée dans un commerce, en cas de victoire du RN, Marine Le Pen sera forcément très proche du pouvoir.
Si elle est inéligible, donc ce sera Jordan, président, et Marine, Premier ministre.
Le maire de Camaret-sur-Aigle, Philippe de Beauregard, préfère lui, avec sa casquette de cadre, ne pas enterrer tout de suite une candidature de la patronne du parti.
C'est vraiment la candidate légitime pour nous, celle qui aurait mérité d'être notre candidate, mais j'espère, j'ai confiance en la justice pour qu'elle le soit.
Même si le cas échéant, il soutiendra Jordan Bardella.
Les réseaux sociaux nuisent gravement à la santé des adolescents et surtout des adolescentes. C'est ce que nous apprend ce matin une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui publie ses conclusions après 5 années de recherche. Ce qu'on découvre, c'est que les filles utilisent davantage les réseaux sociaux et qu'elles en font aussi beaucoup plus les frais, Pierre Bourgès.
Les effets négatifs des réseaux sociaux, Lana, 15 ans, les a déjà ressentis.
Ça me traîne un peu dans mes devoirs, dans mes études, etc. Dans mon sommeil aussi, parce que on a le plus de mal à s'endormir.
Insultes, rumeurs, harcèlement sur les réseaux sociaux, les filles en sont plus victimes que les garçons, selon l'ANSES. Capucine en a fait l'expérience.
Quand je vois que y a une femme qui fait une certaine danse TikTok et qui se prend énormément de remarques, et que si c'est un homme qui va la faire, ça va être tout de suite hyper drôle.
Selon l'étude, il y a aussi une pression sociale plus importante pour les filles. Zia, en seconde, s'en rend régulièrement compte.
On se met plus une pression par rapport au modèle parfait de la femme. Je pense que ça met un poids sur mon estime, parce que quand on voit mieux que nous, ça nous fait toujours un peu mal au cœur, mais après, c'est normal.
La façon dont fonctionnent les réseaux sociaux encourage ce déséquilibre pour Fanny Dupuis, psychologue et psychanalyste.
Si on doit simplifier, ces outils-là permettent de traiter le corps comme un objet. Et c'est déjà la question à l'adolescence, quoi. Et donc c'est plus violent parce que les femmes sont plutôt restreintes à la question du corps en tant qu'objet.
Pour l'ANSES, il faut davantage sensibiliser les parents à l'usage du téléphone par leurs enfants.
7h38, dernier match des 16e de finale de Coupe de France. Ce soir, l'Olympique de Marseille affronte Bayeux, petit poussé de la compétition à 21h. Et hier, c'est le Paris FC qui a créé la surprise en battant 1-0 et éliminé son voisin, le Paris Saint-Germain. Première fois que le PSG sort avant les 8e depuis Montpellier en 2014, entraîné à l'époque par un certain Roland Courbis.
Et Roland Courbis, évidemment, on en parle avec vous tous au 32-16. Et dans un instant, juste après votre journal, Élise, les deux enfants de Roland Courbis, ils viennent de rentrer dans ce studio, seront avec nous.
Le Quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 8, Express Dark. L'outsider, c'est le 12, Global Concept.
Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ce qui arrive à me démontrer que la victoire à 3 points, ça a été un plus dans notre football, eh bien, à ce moment-là, je présenterai mes excuses. Maintenant, je te dis un truc, dans quelques années que je serai plus là, si des fois ça se passe, ça me fera énormément plaisir depuis là-haut de se dire, tiens, je disais pas que des conneries.
Une voix, une légende, évidemment, un passionné de foot. RMC a perdu hier un ami, un consultant hors pair, 22 ans de fidélité à notre station pour Roland Courbis. Olivia et Stéphane Courbis sont avec moi. Bonjour à tous les deux. Un immense merci de venir partager avec nous. Vous êtes les enfants du coach Courbis, qui était vraiment votre père. Vous nous le dites dans un instant et vous venez parler aussi avec tous les auditeurs d'RMC. Je vous attends au standard, au 32-16 pour partager avec nous votre émotion. 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'accueille les enfants de Roland Courbis. Olivia et Stéphane, bonjour à tous les deux. Vous êtes ici chez vous. Il y a Roland Courbis, évidemment, admiré et qui a ému la France entière depuis hier. Les hommages de Platini, de Zidane, de Deschamps, de Dugarry. Le monde du foot qui rend hommage à Roland Courbis. Et puis il y a le père, vous êtes les enfants du coach Courbis. Il était ici chez lui, RMC, sa maison, pendant 22 ans. Vous êtes donc vous aussi ici chez vous. Je vois bien sûr votre émotion. Qui est le père Roland Courbis? Je voudrais d'abord vous donner la parole à tous les deux. Stéphane.
Tu veux commencer?
Non. Je vous donne la parole à vous, Stéphane, parce que je sens qu'elle est... il faut le temps aussi.
Le père, à l'image de ce qu'il était, c'était quelqu'un de très chaleureux, de très humain, qui était toujours à l'écoute et qui avait toujours, justement, comme on en parlait avec vous juste avant, qui avait toujours pour chaque situation une anecdote, pour que chaque problème une solution. Et c'était quelqu'un d'assez particulier, mais très authentique.
Très
très authentique, mmh. Olivia.
Et très atypique, comme dans sa vie en général. Même mon papa, il était atypique, il avait des solutions atypiques pour des problèmes lambda. Moi, je sais que je lui parlais beaucoup de mes histoires de vie, donc pas forcément du foot. Mais même dans le foot, en fait, moi, je donne des cours de sport, mais avec une logique qui me vient de lui, parce que mes logiques sont pas assez normales par rapport à mes... Mais en fait, toutes les logiques sont logiques, mais quand il les sort, tu te dis, putain, je suis trop con de pas y avoir pensé avant, quoi. Oui, effectivement, c'est logique.
Oui, et cette façon d'essayer toujours de trouver des solutions. Je précise d'ailleurs, Olivia, que vous avez un t-shirt aujourd'hui, oui, et je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui est le t-shirt Coach Courbis RMC, et pour nous tous, ça nous parle. Vous le disiez, effectivement, on en parlait dans les couloirs dès que je vous ai accueilli. C'était une présence ici à RMC extraordinaire, que vous avez tous ressenti, d'ailleurs, vous tous qui nous envoyez des messages depuis hier, de nombreux messages, vraiment sur la manière dont Roland Courbis faisait partie de votre vie.
On a Pascal, par exemple, supporter du PSG. Je suis supporter du PSG et j'ai pleuré. Pas même si je suis supporter du PSG, Roland Courbis, qui était évidemment ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Emmanuel, une énorme pensée à Roland, il va nous manquer. Roland Courbis, c'était une voix, c'était une analyse, c'était un plaisir de l'écouter, notamment dans l'after. Voilà ce que nous écrit Alex. Et des messages comme ça, j'en reçois des dizaines depuis ce matin sur le WhatsApp RMC.
Donnez toujours confiance à chacun. Pierre, Arnaud, vous êtes là aussi au 32-16. Pierre, vous nous appelez de Montpellier. Vous êtes artisan paysagiste. Vous vouliez lui dire merci, on vous écoute.
Oui, bonjour à Pauline, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à Stéphane et Olivia. Toutes mes condoléances à toute la famille.
Merci.
Et oui, je voulais dire un grand merci au coach, hein, coach Courbis, qui nous a mené après les matchs. Moi, comme je l'ai dit, c'était avec mon grand-père. Voilà. On rentrait du stade Vélodrome, on rentrait à Montpellier. Et on écoutait l'after avec coach, toute l'équipe. Et des fois, souvent, même, il nous consolait après les matchs de Ligue des Champions, je m'en rappelle. C'est des souvenirs, j'avais 9-10 ans. Voilà, ça m'a fait aimer l'OM, ça m'a fait aimer le football. Plein d'émotions, vraiment. C'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un qui aimait Montpellier, qui aimait Loulou Nicolin avec leur sortie, je me rappelle de mon enfance. C'est des sorties vraiment incroyables.
On l'associe tous à un moment de notre vie.
Exactement. C'était en rentrant du stade. C'était RMC aussi. C'était vraiment pour moi, c'était les premiers moments à RMC, quand j'étais vraiment tout jeune. Aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est beaucoup d'émotions. Et encore merci coach, merci RMC. Merci à tout le monde.
Merci. On est tous en train de lui dire merci. Et effectivement, il incarnait complètement RMC. Je vous entends tous les deux, Stéphane et Olivia, très ému aussi d'entendre ce que les auditeurs disent de votre père.
Non, surtout si, enfin, je pense qu'Olivia sera d'accord avec moi, mais ce qu'il en ressortait, c'est que le monde du football est un monde de compétition, est un monde très dur, mais lui avait toujours un mot positif. Dans une situation, même je l'entendais rarement dire du mal d'un joueur, il trouvait toujours un moyen de le défendre. Il avait ce côté positif et humain dont on parlait dans les couloirs, comme vous disiez, que peu de gens ont. Et dans chaque situation, plutôt que d'accabler quelqu'un, il allait valoriser quelqu'un d'autre, valoriser un joueur. C'était pas du tout le style comme certains, mais de critiquer bêtement, en disant bah tiens.
Toujours chercher la part d'humanité.
Toujours positif.
Toujours positif, humain, encourageant en fait. Moi, je l'ai ressenti effectivement quand je suis arrivée à RMC. C'est un des premiers à m'avoir donné le sentiment que j'étais chez moi et que j'aurais ma chance. Arnaud,
chez lui, mais vous veniez chez lui.
T'accueilles chez lui.
Exactement.
Vous arrivez chez lui, donc il vous accueille à la maison.
Et ça reste effectivement. Et c'est comme ça que je vous ai accueilli en vous disant que vous étiez ici chez vous parce que c'était sa maison. Arnaud est aussi avec nous, enseignant à Bordeaux. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline, je vous présente mes condoléances à la famille et aux enfants.
Ils vous entendent.
Merci.
Voilà, écoutez, c'est tout à fait normal. Je tenais à rendre hommage à Roland. Moi c'est pareil, je l'ai écouté pendant des années. Et c'est exactement ce que son fils vient de dire, quoi. On sentait cette chaleur en lui humaine, cette bonhomie, toujours dans les conseils, la tactique, la technique, mais jamais en train d'offenser quelqu'un. Pour moi, c'est ce que j'appréciais particulièrement chez lui. C'est cette humanité. Et puis en plus, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Il a été entraîneur, un grand entraîneur des Girondins de Bordeaux aussi. Et voilà, c'est Roland. Moi, je l'écoute aussi depuis l'after, depuis toutes ses émissions radio. Et c'était aussi un formidable joueur parce que c'était un coach, mais c'était aussi un très bon joueur. Vraiment, ça me tenait à cœur de lui rendre hommage quand j'ai appris cette nouvelle. Je ne fais pas partie de sa famille, mais c'est vrai qu'à force d'entendre cette voix comme ça chantante, qui sait de quoi il parle et toujours dans la bonhomie, les conseils. C'est vraiment ce que je retiens de Roland et puis un super tacticien.
Merci beaucoup Arnaud. Et vous êtes effectivement trop nombreux au 32-16 pour qu'on vous donne à tous la parole, mais vous savez effectivement qu'on vous entend. Il parlait de cet hommage, Arnaud, à l'instant. Rendre hommage, tout le monde a besoin de rendre hommage. Il y aura un hommage officiel organisé à Marseille. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
En fait, ce qu'on réfléchit en famille depuis hier, c'est comment lui rendre hommage de la meilleure des façons. Donc on va faire en deux parties. On va faire une partie à Paris, demain après-midi, à l'église Sainte-Madeleine, à 15h. Et samedi aussi à Marseille, qui... Marseille et reste sa ville, lui l'enfant des quartiers nord de Marseille. Donc samedi aussi, sûrement à l'église des Réformés.
D'accord.
Samedi après-midi, on va lui rendre hommage, on va faire une messe aussi entre nous, entre amis et tous ensemble.
Tous ensemble, donc demain, 15h, la Madeleine à Paris, samedi à l'église des Réformés.
On nous renverra les infos pour samedi.
Vous nous direz, évidemment, on vous tiendra tous au courant sur RMC. Est-ce qu'il y aura aussi un hommage au Vélodrome? Est-ce qu'on sait s'il y aura un moment pour le monde du football?
On y réfléchit encore, mais vu les gens qui nous ont appelés demain, je pense que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, je veux dire, tous les gens supporters du football seront là, donc... tout ce qui est Vélodrome, tout ça, on y réfléchit, mais après ça fait beaucoup de choses en peu de temps, donc on a déjà organisé les deux messes, et après on verra si on fait autre chose aussi ou pas.
Je vous sens tous les deux très généreux de lui. Je sais pas comment le dire autrement. Il était un homme extrêmement généreux de sa personne. C'est-à-dire que quand on le croisait, il donnait beaucoup. Il donnait à chacun, il donnait une attention, un mot. Et je vous sens tous les deux très généreux dans le partage. C'est un homme dont vous savez qu'il était aimé par les autres et vous en êtes heureux.
Ouais, mais surtout en fait, on le savait, mais depuis hier, on se prend une vague d'amour. Comme les gens peuvent pas lui dire à lui, on reçoit tout. Pardon, je suis désolée, mais.
Et c'est pour ça que nous, qu'on essaie de faire depuis hier, en fait, c'est de lui rendre hommage de la meilleure des façons.
Et ce sera fait, et c'est fait sur cette antenne, parce que c'est sa maison. Merci à tous les deux d'être venus partager votre émotion et partager un peu de ce que le coach était aussi comme père, Roland Courbis. Merci à tous les deux, Stéphane et Olivia, vous êtes les enfants de Roland Courbis. Messe donc demain, notez-le, la première étape ce sera à 15h à Paris, à l'église de la Madeleine, il est 7h51. Et pendant ce temps-là, la voix de gauche d'RMC est entrée dans ce studio, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, écoutez ce que disait la ministre de l'Agriculture hier dans le face-à-face.
C'est trop compliqué aujourd'hui d'installer des bâtiments d'élevage, des poulaillers. Il y a 4 projets là de poulaillers qui sont retoqués parce que les Français ne veulent plus voir de bâtiments d'élevage.
Vous vouliez réagir au propos de la ministre de l'Agriculture hier, Cécile, pourquoi?
Parce que je pense que cette histoire d'œufs rend tout le monde un peu fou, mais la ministre particulièrement.
L'histoire des œufs, revue donc par Cécile Duflo dans un instant, 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo. Mais d'abord, le bonus.
Le bonus RMC, je vous parle ce matin de la bande dessinée la plus chère de l'histoire. Et oui, une BD de Superman qui vient tout juste d'être vendue aux enchères pour 13 millions d'euros. Alors évidemment, à ce prix, vous avez une bande dessinée qui a une histoire. Déjà, elle date de 1938. Cette BD, c'est l'un des 100 exemplaires du magazine Action Comics No. 1. En fait, c'est dans cette BD qu'on voit pour la première fois l'homme de Krypton. Donc c'est une pièce de collection. Vous ajoutez à cela le fait qu'elle a appartenu, cette BD, à Nicolas Cage, l'acteur qui l'avait lui-même acheté 150 000 $ à l'époque. Elle lui avait été volée ensuite en 2000, réapparue 11 ans plus tard. Elle avait été retrouvée dans un box. L'acteur l'avait finalement revendue, c'était en 2012, pour plus de 2 millions de $. 16 ans plus tard, cette même BD a donc été achetée quasiment 7 fois plus cher, quasiment 13 millions d'euros par un acheteur qui a préféré rester anonyme.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h54 et c'est l'heure de la gauche sur RMC, voix de gauche comme tous les mardis. Cécile Duflo, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Hier dans le face-à-face, la ministre de l'Agriculture réagissait à mes questions sur les pénuries d'œufs qui frappent la France, les œufs qui sont plus rares dans les rayons, voire carrément absents de certains magasins. Alors pour Annie Genevard, et c'était sa réponse, c'est à cause de la législation française qui serait trop contraignante et à cause des riverains qui souvent refusent de voir des poulaillers s'installer à côté de chez eux. Et vous n'êtes pas d'accord Cécile?
Non, je suis pas d'accord parce que d'abord il faut dire les chiffres. La France, c'est le plus gros producteur d'œufs en Europe. On est à 15,4 milliards en 2025 et 5% de plus en 10 ans. Donc les normes qui existaient déjà n'ont pas empêché l'augmentation de la production, mais j'y reviendrai. Ce qui est sûr, c'est que c'est un aliment très important puisqu'il y a plus de Français qui mangent des œufs, 97%, que de Français qui mangent du pain. Donc c'est un aliment et effectivement très important pour les Français. Et effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où ça a été difficile d'en trouver dans les rayons. Pour, en gros, quatre raisons. Un, la neige et la tempête et l'approvisionnement. Ensuite, le fait qu'il y a eu quand même des difficultés liées à l'épidémie de grippe aviaire. Ensuite, il y a effectivement la hausse de la consommation, mais aussi un vrai truc, et je veux le dire aux gens qui nous regardent, en fait, quand on pense qu'il y a une pénurie, si on en trouve dans le magasin, au lieu d'acheter une boîte de 12, on en achète 3, et qu'est-ce que ça fait? Ben, il n'y a plus 2 dans le magasin. Donc, il y a ça aussi qui s'est passé.
Donc pour vous, c'est une histoire juste de conjoncture?
Alors, il y a beaucoup une histoire de conjoncture, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on mange 25% de plus d'œufs en France que dans le monde. On est des gros mangeurs d'œufs. Il y a presque même un Français sur 10 qui mange des œufs tous les jours, parce que c'est une protéine pas chère et parce que c'est facile à cuisiner. Et puis parce que il y a aussi en ce moment une mode. Et c'est ça qui a contribué à l'augmentation de la consommation.
Dans quelle proportion ça a augmenté cette consommation?
Ça a augmenté de 5%. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux choses intéressantes. D'abord, c'est qu'on était quand même quasiment autosuffisant en œufs, c'est-à-dire qu'on produisait 99% de ce qu'on consommait. Donc il n'y a pas un problème de tension. Mais en revanche, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce qui a fait progresser la consommation d'œufs, c'est les œufs bio, alors qu'ils coûtent plus cher et que leur prix a augmenté, c'est les œufs élevés en plein air et les labels rouges. Plus de 80% des œufs qui sont achetés par les Français aujourd'hui, c'est des œufs de poules qui ne sont pas dans des cages. Bon,
alors,
et ça, c'est très important.
Pour vous, il n'y a pas de problème de normes. Pour construire, c'est justement ces nouveaux poulaillers qui seraient plus adaptés et qui seraient moins des poules de cage.
Alors, je l'ai dit. Premièrement, on a continué de voir une augmentation de la production malgré l'existence de ces normes. Ensuite, de quelles normes on parle? On parle d'une situation un peu spécifique. On parle du fait de relever les autorisations nécessaires pour les exploitations de 40 000 à 85 000 poules. Donc, ce n'est pas des petits poulaillers, c'est des très gros poulaillers. Et c'est une demande qui concerne, et c'est bien un problème, 3% des exploitations. C'est vraiment pas du tout l'élevage en majorité. C'est là que la ministre, quand même, abuse. C'est qu'en fait, elle dit, ah bah voilà, vous avez plus d'œufs dans les rayons, c'est à cause de la loi du plomb. Et franchement, essayer de repeindre la loi du plomb et de blanchir la loi du plomb en parlant des œufs, c'est pas très honnête. Donc je sais que la politique a changé, mais quand même. Et puis je voudrais redire une chose. Et on l'a vu avec le drame de Crans-Montana. L'histoire des normes, c'est pas juste pour embêter les gens. Les normes, ça a deux raisons massives, la sécurité et la santé. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place des normes. Et là où les agriculteurs ont raison, c'est que les normes qui s'appliquent chez nous, elles doivent s'appliquer aussi à ce qu'on achète et qui vient d'ailleurs. Parce que sinon, il n'y a aucune logique. Et donc, si on est dans cette situation, c'est positif. On préserve notre environnement, on préserve la qualité de l'alimentation des Français, on préserve nos agriculteurs. Et c'est ça que devrait défendre la ministre.
Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et à la une du journal de 8h, l'ouverture aujourd'hui du procès en appel de Marine Le Pen. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC. Merci d'avoir choisi Apolline Matin pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
8h01, le journal, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Marine Le Pen à nouveau devant la justice, rejugée à partir d'aujourd'hui à Paris pour l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. C'est sa candidature à la présidentielle qui va se jouer durant ce nouveau mois de procès. La mobilisation agricole, 350 tracteurs sont dans Paris en ce moment et d'autres sont en train d'être délogés sur l'autoroute au sud de Toulouse. Et puis les petits patrons, vous les entendrez, ils constatent une hausse des incivilités. On a des chiffres ce matin sur RMC.
Marine Le Pen assure qu'elle est pleine d'espoir ce matin.
Oui, au matin de son deuxième procès devant la Cour d'appel de Paris qui va donc rejuger pendant un mois l'affaire dite des assistants parlementaires européens du Front National à l'époque, pour laquelle elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité. C'était l'année dernière, souvenez-vous, Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC, en direct ce matin. On se souvient du coup de tonnerre à l'époque. Comment compte-t-elle, Marine Le Pen, se défendre cette fois?
Eh bien, sur le fond, elle continue à acclamer son innocence, pleine d'espoir d'en convaincre les magistrats, a-t-elle répété hier. Et comment va-t-elle faire? En disant la vérité, insiste-t-elle. Alors, dans le détail, on sait que depuis des mois, Marine Le Pen a énormément consulté pour préparer ce procès en appel. appel. Elle a d'ailleurs pris une avocate supplémentaire, notamment pour scinder sa défense entre d'un côté ce qu'on lui reproche en tant qu'eurodéputée et de l'autre en tant que présidente du parti, à savoir la mise en place d'un système de détournement de fonds européens. Elle s'en défend et a l'intention de contester les points de droit du dossier et les changements de règles au sein du Parlement européen. Sous-entendu, les élus FN n'avaient pas conscience de commettre une infraction. La limite de tout cela, c'est qu'il y a des indices matériels dans le dossier et que 12 autres condamnés au premier procès n'ont pas fait appel et sont donc définitivement coupables.
Guillaume Bier en direct pour RMC. La décision est attendue cet été et en toile de fond, Sébastien Krebs, chef du service politique à RMC, en direct vous aussi, c'est sa candidature à l'élection présidentielle qui se joue déjà.
Oui, c'est même la seule question qui se posera à l'issue de ce procès. Marine Le Pen pourra-t-elle être sur la ligne de départ l'année prochaine? Si les juges confirment sa peine et qu'elle reste inéligible, elle n'y sera pas. L'infime espoir de son camp, c'est que cette peine soit au moins réduite. Mais l'un de ses proches le reconnaît. Marine a conscience qu'elle joue sa survie et que le pire peut arriver. Alors elle va se montrer combative. Elle sera très présente aux audiences, mais ne lâchera pas pour autant la politique et le terrain. Elle ne va pas se mettre en apnée, prévient l'un de ses lieutenants. Elle ira soutenir ses candidats aux municipales. Elle sera d'ailleurs dès ce vendredi à Marseille. Et son entourage l'admet. Elle aborde sans doute ce procès en appel avec un peu plus de sérénité que le premier. Pourquoi? Parce que au RN, le plan B est installé. Si elle est condamnée, tout ne s'écroule pas, se rassure un proche. Ça ne serait pas la fin du monde parce qu'on a Jordan Bardella, recours assumé qui fait désormais jeu égal avec elle dans les sondages. Si elle est condamnée, elle lui passera la main dès cet été, dès l'annonce du jugement en appel.
Sébastien Krebs, chef du service politique RMC, en direct donc ce matin. La politique, c'est aussi le budget, tiens, qui est de retour à l'Assemblée nationale aujourd'hui dans l'hémicycle, alors qu'il n'y a toujours pas d'accord entre les différents blocs politiques et que l'option d'un 49-3 est évoquée avec de plus en plus d'insistance. Le secteur de l'Assemblée, d'ailleurs, qui est bouclé ce matin à Paris, le pont et le Quai d'Orsay, fermé toute la journée avec la manifestation des agriculteurs. Ils sont de retour dans la capitale pour la deuxième fois en moins d'une semaine, à l'appel cette fois de la FNSEA pour défendre la souveraineté alimentaire qui est en danger, selon le syndicat. Les 350 tracteurs qui étaient annoncés et dont on vous parle depuis très tôt ce matin sur RMC sont dans la capitale, confirme la préfecture de police. Amélie Courtet, à leur côté en direct ce matin pour RMC. Question, où en est le cortège donc?
Ça y est, les premiers tracteurs sont arrivés devant l'Assemblée nationale. Objectif, interpeller les députés qu'ils jugent responsables de leur situation aujourd'hui. On est certes fatigués, mais déterminés, m'explique Damien en tête de file du convoi. Cet agriculteur est très inquiet pour les générations futures.
L'agriculture française est en train de mourir petit à petit. Vous avez qu'à regarder la courbe de décroissance du nombre d'exploitations et vous comprendrez. Nous vous en baladez depuis plus de 2 ans. Les promesses ne sont pas tenues. On attend la suppression de tout le normatif qui n'existe pas dans les autres pays du monde. Exception agricole comme l'exception culturelle. Il n'y a que ça qui sauvera l'agriculture européenne.
Et les dernières annonces du gouvernement ne changent rien. Soutien financier, renforcement des contrôles, simplification administrative. Ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut du concret, répètent les agriculteurs. Toujours dans l'attente des décrets d'application de la loi Duplomb, par exemple. Pour beaucoup, ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'ils manifestent ces dernières semaines. Ils sont prêts à tout pour sauver leur métier. Certains ont même prévu paille, matelas, barbecue pour tenir ici plusieurs jours. Mais ils restent très escortés par la police et les camions de CRS.
Et en parallèle, les forces de l'ordre encerclent pour les déloger depuis 4h30 du matin les dizaines d'agriculteurs qui bloquaient depuis un mois l'autoroute A64 au sud de Toulouse. C'est Jérôme Bail lui-même, un des leaders de ce mouvement, qui a composé le 32-16 ce matin pour s'en indigner.
8h06, les petits patrons sont remontés eux aussi ce matin.
Oui, contre les incivilités qui n'arrêtent pas d'augmenter. Ils sont 7 sur 10 à faire ce constat selon une étude du syndicat des indépendants qu'on vous révèle en exclusivité ce matin sur RMC. On parle là des insultes, des dégradations, des vols aussi. Vous confirmez à Marseille, Anna Jaugeard pour RMC.
Il y a 2 mois, André, gérante d'une boutique de prêt-à-porter, a vécu une énième tentative de vol.
La dame est rentrée avec sa fille. J'étais un peu occupée. Elle essayait d'enlever les bips sur le côté. En la surprenant, elle me dit non, mais je suis désolée. C'est la première fois que je fais ça. Que voulez-vous faire?
La gérante s'avoue impuissante malgré ses caméras de surveillance.
Et ça les dissuade pas du tout. On passe plus de temps à surveiller les gens qu'à travailler, en fait, à faire notre métier comme on l'aime.
Selon l'enquête du syndicat des indépendants, plus de 2/3 des patrons constatent une augmentation des actes d'incivilité devant la maroquinerie de Samy. toutes les valises sont attachées avec une chaîne et un cadenas.
Il y a beaucoup de produits qui sont attachés, bon, sans parler des antivols, de la surveillance vidéo. Il y a plein de facteurs qui font qu'il y a de plus en plus de vols et il faut être de plus en plus vigilant.
Des vols qui, pour certains, finissent par coûter cher. Jonathan est grossiste en peinture. Après son dernier cambriolage, il a dû revoir ses contrats d'assurance.
Le dernier cambriolage en date, c'était un préjudice à 12 000 euros. On était assuré avec 6 000 euros. Donc on était obligé de revoir à la hausse les contrats d'assurance, mais qui dit augmenter les plafonds de remboursement, dit augmentation forcément de la cotisation annuelle.
L'artisan déplore tout ce temps passé à prévenir les vols, du temps perdu où il ne peut pas démarcher de nouveaux clients.
Je signale que c'est le tout nouveau parquet anticriminalité organisée qui enquête sur l'assassinat de l'ancien dirigeant nationaliste corse Alain Orsoni, qui a été abattu hier alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère dans un village au nord d'Ajaccio. C'est une journée de grève à la SNCF, trafic quasiment normal, sauf dans le RER D avec la moitié des trains supprimés, à l'appel de deux syndicats au dernier jour des négociations annuelles sur les salaires.
8h08 sur RMC, Marseille rendra hommage ce soir à Roland Courbis.
Oui, les Marseillais porteront un brassard noir lors de leur 16e de finale de Coupe de France à 21h chez les amateurs de Bayeux. Pour saluer une des figures de son histoire. Voilà ce qu'écrit l'OM, figure même de la ville, hein, Florent Germain à Marseille pour RMC.
Oui, les Marseillais adoraient écouter ou même croiser Roland Courbis à la sortie de ses deux restaurants préférés, par exemple près de la plage des Catalans pour la bouillabaisse ou en bas de Notre-Dame-de-la-Garde pour la meilleure pizza du monde, disait-il. Coach ou Roland, un personnage qui a marqué les Marseillais.
C'était un pur Marseillais, quoi. Il va manquer au football français, surtout à Marseille. Moi, j'aime bien les entraîneurs comme ça. S'ils perdent, ben, ils pleurent. Quand il gagne, il pleure de joie, mais ça, c'est des super entraîneurs.
Pablo Longoria, le président de l'OM, parle d'une voix libre et habitée par la passion du jeu. Lionel Tonini, supporter emblématique des Yankees, regrette que Courbis n'ait pas été champion avec l'OM en 1999.
C'est l'entraîneur de l'OM qui aurait dû être champion, Roland, qui avait son franc-parler, qui pouvait te dire d'aller te faire voir quand tu lui cassais un peu les pieds, mais qui te répondait à n'importe quelle de la journée du soir, quand tu l'as.
Bientôt, le Vélodrome rendra hommage à Roland Courbis. Les joueurs de l'OM porteront un brassard noir ce soir lors du match de Coupe de France.
Alors à propos de l'hommage, vous venez d'entendre les enfants de Roland Courbis sur RMC. Il y aura une messe demain 15h à Paris, à la Madeleine, et une autre samedi, Marseille, église des Réformés. Puis je vous signale que Paris s'est qualifié hier soir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, mais le PFC qui a éliminé le PSG sur le score d'un but à zéro.
C'était le journal de Quentin Vinet et à 8h09, je voudrais vous dire un grand merci, un très très grand merci à vous tous qui avez fait d'RMC votre radio, parce que voilà, ce matin, les chiffres d'audience de la radio ont été publiés il y a quelques minutes pour la période novembre-décembre et ils sont très 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 bons pour nous, donc on est extrêmement heureux de vous le dire, de vous dire merci et de vous remercier. D'abord, vous êtes près de 3 millions à écouter RMC tous les jours et depuis la rentrée, en particulier pour Apolline Matin, eh bien vous êtes au rendez-vous. Alors oui, on a été là pour vous parce qu'on a encore musclé nos tranches d'informations, de débats, d'échanges avec vous. Dans Apolline Matin, vous pouvez désormais entendre chaque matin les voix de droite et de gauche. Vous avez Louis Sarkozy, vous avez Cécile Duflot. On a retrouvé le merveilleux Nicolas Canteloup tous les jours à 8h50. Et vous êtes, je le disais, au rendez-vous puisque vous êtes plus de 90 000 nouveaux éditeurs à nous avoir rejoints depuis la rentrée. Et puis c'est une fierté et un bonheur partagé également avec les Grandes Gueules, avec Estelle Midi, les émissions de sport également qui gagne de nouveaux auditeurs. Bref, on est très très heureux ce matin et on voulait vous dire encore un immense merci pour votre fidélité, une très grande fierté pour RMC ce matin. Il est 8h10 et c'est l'heure de parler économie sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chip qui est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Après 4 années de déconsommation, les Français recommencent à dépenser.
Exactement, le chiffre d'affaires des produits de grande consommation a augmenté en 2025. Pour la première fois depuis le Covid, plus 1,9% exactement en termes de chiffre d'affaires. Mais cette augmentation du chiffre d'affaires, elle n'est pas due à la hausse des prix, pour une fois, mais vraiment à l'augmentation des quantités vendues, plus 0,9%. C'est ce que nous disent les données que vient de publier le spécialiste de la consommation Circana. C'est l'alimentaire qui concentre l'essentiel de la croissance, qu'il s'agisse de l'épicerie, du frais libre-service, du frais traditionnel. À l'inverse, ce qu'on appelle le non-alimentaire continue de souffrir, notamment les rayons maison, textile, toujours orientés à la baisse. À noter que les Français sont ceux de tous les Européens qui ont le plus repris le chemin des magasins. Et alors, il y a une exception française, ceux qui ont le plus dépensé au cours de cette année 2025, eh bien, ce sont les habitants de la région PACA. Dans le sud, on a fait davantage de courses, on a consommé davantage.
Alors, en termes donc de territoire, c'est le sud. En termes de magasins, où est-ce qu'on a le plus dépensé ?
Alors, il y a des perdants et des gagnants, clairement. Les perdants, c'est les grands hypermarchés. Leurs ventes ont reculé de 3%. Les supermarchés, eux, stagnent. Les grands gagnants, c'est les enseignes discount. C'est les formats plus alternatifs comme le e-commerce, notamment le e-commerce alimentaire via le drive, les magasins de proximité qui affichent des croissances de ventes supérieures à 5%. C'est une évolution qui traduit des comportements d'achat beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus experts. Hein. Depuis le Covid, on achète moins quand on fait ses courses, mais on fait ses courses plus souvent. On va dans plus d'enseignes différentes et surtout, on trouve ce que le consommateur maintenant est capable d'identifier, le juste prix. Pas forcément d'aller vers le prix le plus bas.
Le juste prix. Ouais. Et d'ailleurs, les consommateurs, ils remontent en gamme aussi. Alors.
Exactement. Les marques nationales regagnent un peu de part de marché en 2025. Là encore, après des années de forte baisse, leurs ventes progressent même un peu plus vite que les marques de distributeurs. Les marques nationales, ces grandes marques, restent majoritaires sur les sodas, la confiserie, l'hygiène beauté, les alcools. Mais clairement, quand même, le cœur du chariot de base aujourd'hui, c'est quand même les marques de distributeurs.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint à 8h30. Notez le l'invité du face-à-face, ce sera le maire de Nice, Christian Estrosi. Et puis juste après, comme chaque matin, on a rendez-vous avec Nicolas Cantelou et ses imitations. Ce sera à 8h50 sur RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Oui, oui, il est là.
C'est
il
moi.
Est là avec
bonjour.
Nous Arnaud Demanche. Salut
bonjour
Arnaud.
Apolline, Pascal, Géraldine et Martin. Car Martin Bourdin est toujours avec nous. Jean-Jacques Bourdin l'a envoyé espionner Apolline sur Instagram.
Je veux tout savoir. Quels sont ses points faibles, ses failles? Comment elle fait d'aussi bonnes audiences? Je veux revenir.
Mais monsieur Bourdin, on a juste le même nom. Je suis pas votre fils en fait. Il faut me laisser tranquille.
Si Martin, je suis ton père.
Pour le croire,
putain d'asthme.
À propos de gens qui ont des papas embarrassants, Marine Le Pen est de retour au tribunal. Son procès est jugé en appel. Vous savez que, d'ailleurs, les avocats du RN ont déconseillé à Jordan Bardella de témoigner à ce procès.
Monsieur Bardella, comment expliquez-vous que l'assistant parlementaire européen de Marine Le Pen travaille à la fois à Bruxelles et à la fois au siège du RN à Paris?
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie?
Ouais, d'accord. Le tribunal condamne Marine Le Pen. Oups, désolé. Dans quelques semaines, on saura donc si Marine Le Pen sera présidente en 2027 ou si c'est Jordan Bardella qui se vautrera pendant le débat de l'entre-deux-tours et perdra l'élection. Non, parce que jusqu'à présent, en débat, il s'est toujours montré un peu trop fébrile.
Monsieur Bardella, votre programme économique?
Alors, l'économie, c'est important pour le pays. Ça permet d'acheter et de vendre des choses.
Oui, mais encore, votre politique industrielle.
Alors, l'industrie, elle a besoin d'usines avec des ouvriers pour produire des biens de consommation pour l'économie. J'ai bon ?
Oui, oui, oui. Et sur les exportations,
alors grand 3, petit B, les exportations, c'est à l'étranger, c'est quand on vend. Oui,
yes, yes,
beau gosse. Donc, si c'est lui qu'on nous promet comme président, j'ai un message pour les juges. Laissez Marine Le Pen se présenter. Eh, nous, on n'a rien fait, hein. C'est elle qui doit être punie, c'est pas nous. Je vois pas pourquoi on se taperait 50 Bardella pour une vieille affaire dans laquelle on est innocent en plus. Alors oui, c'est de l'argent public, oh là là. Ben, vous savez quoi? En tant que contribuable, je pardonne. Voilà. Quitte à avoir l'extrême droite au pouvoir, j'aimerais bien avoir le moins nul des deux, si c'était possible.
En Iran, le fils du Shah, qui a donc été déchu du pays, exhorte les manifestants à, je cite, se préparer à prendre les centres-villes.
Oui, il veut revenir. D'ailleurs, les partisans du Shah pensent rappeler donc le fils du Shah pour lui redonner le pouvoir. C'est comme si à la prochaine crise en France, les royalistes mettaient Louis de Bourbon, 15 ans, à la tête du pays. Vous imaginez un gamin de 15 ans à l'Élysée? Déjà, premier danger, il faudrait éloigner Brigitte.
Alors, mon grand, tu veux faire de la politique? Pour commencer par te faire un réseau, on va aller dîner chez Harry Habitant avec Gérard Miller.
Et en Iran, Internet a été coupé, les portables ne passent plus, il n'y a plus que la télévision et la radio d'État, les services publics sont effondrés. Bref, courage aux Iraniens, maintenant ils savent ce que c'est que de vivre dans la Creuse. Eh ben, on pense à eux, on est solidaires.
La vidéo fait le tour du web. Arnaud, Ségolène Royal, pendant un podcast, qui lance l'idée originale au sujet des rodéos urbains.
Vous avez vu ce que c'était la vidéo, c'est génial. Elle souhaite que les auteurs de rodéos urbains intègrent des écoles de cascadeurs pour le cinéma français. Parce que quand on leur confisque leur moto, c'est un peu comme quand on confisque son pinceau à Mozart ou sa guitare à Michel-Ange. C'est une vocation qu'on a.
Bien sûr.
Donc j'ai hâte d'entendre les prochaines propositions de Ségolène. Les dealers, ce ne sont que des pharmaciens contrariés, en fait. Les guetteurs, ce sont des contrôleurs aériens qui s'ignorent.
Oui.
Formons-les, Michel Fourniret, si on avait développé cette passion du jardinage.
Oh non.
Véronique Courgeot, on s'est trompé, fallait lui confier la direction de Picard.
Oh, voilà.
Et alors, donc, cascadeur pour le cinéma français, je savais pas qu'on avait autant besoin de cascadeurs à moto pour le cinéma français. Parce que le cinéma français, en général, c'est un couple qui s'engueule dans une cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire de 10 000 cascadeurs à moto? Chérie, je te quitte.
Comment?
J'ai dit, je te quitte. Ah, Mathéo, arrête de faire de la moto dans la cuisine, on s'entend pas ici. Ça aurait de la gueule intouchable. Les deux auraient fini tétraplégiques, ils auraient été en fauteuil tous les deux. Ils vont en foutre partout des cascadeurs.
Messire! Messire! Un sarrasin à moto! Un sarrasin à moto, messire!
Bonbon Jacouille, monte séance sur ma moto.
Coupé! Il y a une moto dans le champ!
Oui, c'est à cause de Ségolène Royal. Si on n'en met pas, on n'a pas le CNC. Tu sais qu'il est géré par Patrick Balkany maintenant, le CNC. C'est une idée de Ségo. Voilà, le monde va changer. À demain.
Cinéma sponsorisé. Merci Arnaud Demanche. Arnaud, qu'on retrouve tous les matins à 7h20 et à 8h20 pour notre plus grand plaisir. Vous êtes très, très, très nombreux et on aimerait vous faire passer tous à l'antenne. Mais quelques-uns, évidemment, on peut y arriver pour partager votre émotion après la mort de Roland Courbis. Amir est avec nous, qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Amir.
Bonjour Apolline.
Amir, vous aussi, vous êtes ému, vous vouliez rendre hommage à Roland Courbis.
Un grand monsieur du football français, un grand monsieur tout court. Il m'a appris beaucoup, je l'écoute depuis des années sur votre radio. Ça m'a énormément touché hier quand j'ai appris sa mort en direct sur votre radio. Vraiment touché.
Très, très, très touché. Vous avez entendu ses enfants tout à l'heure. On sentait vraiment une famille, la vraie famille. Et puis la famille d'RMC, la famille du foot. On a l'impression tous d'avoir fait partie justement de cette famille. Et il y a de nombreux messages aussi sur le WhatsApp. J'aurais qu'on puisse en citer quelques-uns quand même pour pouvoir justement dire ce que vous nous en dites.
Le plus fort, c'est celui de Loustalo. Je suis tellement triste de cette perte. Roland, c'était un peu comme mon tonton. Je l'ai suivi à Marseille et partout. J'adorais son franc-parler, ses débats enflammés. Un grand bonhomme est parti. Condoléances évidemment à toute la famille.
Merci à vous tous pour vos messages. On continue bien sûr sur l'antenne d'RMC et très belle journée à vous, Amir. Dans un instant, mon invité, c'est le maire de Nice, Christian Estrosi. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions dans ce studio. Vous êtes le maire de Nice et vous êtes d'ailleurs candidat à votre propre succession. Vous êtes également le vice-président du parti Horizon. Un mot d'abord sur ce qu'il se passe en ce moment même. La colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Ils sont entrés avec des tracteurs dans Paris. On voit sur les images de BFM TV qu'un certain nombre de tracteurs de la FNSEA sont présents devant l'Assemblée nationale. Dans le même temps, du côté de l'A64, c'est le barrage installé depuis un mois par les agriculteurs, notamment de Jérôme Bail, qui est en train d'être délogé par les CRS. Est-ce qu'il faut en effet mettre fin à la colère des agriculteurs ou est-ce que vous estimez qu'il faut qu'ils puissent continuer à s'exprimer ?
Bon, s'exprimer est une chose, bloquer en est une autre. Parce que naturellement, je partage et je soutiens la colère des agriculteurs, mais je ne peux pas soutenir un mouvement qui en même temps met en difficulté d'autres pans de notre économie. Voilà, le droit de grève, le droit de manifester est quelque chose de libre et de constitutionnel dans notre pays. Celui de mettre en difficulté à un moment où nous avons besoin de produire, où nous avons besoin d'avoir une économie qui soit dynamique et qui relance la croissance dans notre pays, alors qu'on voit les difficultés, notamment dans le débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Mais Voilà, je veux dire à nos agriculteurs que je suis
quand
naturellement...
Quand vous dites
que
je les comprends, vous comprenez quelle partie de leur colère? Est-ce que vous comprenez leur colère contre le Mercosur? Est-ce que vous comprenez leur colère contre une sorte de trop de normes? Est-ce que vous comprenez leur colère sur une concurrence déloyale avec nos propres voisins, y compris au sein de l'Union européenne? Quelle est la part? Est-ce que vous comprenez ces trois aspects-là? Ou est-ce qu'il y a parmi ces différentes colères certaines qui ont plus de grâce à vos yeux?
Non seulement je comprends, mais en plus je dénonce avec eux, et ça remonte à des décennies. Alors on peut prendre le Mercosur qui est l'actualité. Sur le Mercosur, naturellement, il est incompréhensible de voir le Parlement européen qui s'apprête à voter quelque chose pour lequel la France, pourtant, avait réussi à obtenir qu'il y ait une minorité de blocage.
Ça n'a pas duré longtemps, ça. Il y a eu quelques jours où on a réussi à embarquer avec nous les Italiens.
Ça a sauté, comme vous le dites, à cause des Italiens. Ça a sauté à cause de Meloni. Ça a sauté à cause des alliés du RN. Là où nous avions une minorité de blocage qui pouvait reporter ce débat à plus tard. Aujourd'hui, rien que sur la viande et la volaille, on sait qu'on produit en Amérique du Sud à 20 ou 30% moins cher, donc on est face à une concurrence déloyale.
Quand vous
parlez de concurrence déloyale...
Allez-y, mais j'ai bien noté que vous pointiez les alliés du RN, j'y reviendrai. Allez-y, Christian Estrosi.
Lorsque vous parlez de concurrence déloyale, vous parlez de concurrence déloyale en Europe déjà, moi je vais plus loin que la concurrence déloyale. Ça fait des décennies que la France a cédé des pans entiers à des normes européennes qui nous ont été imposées, y compris alors que nous étions le grenier de l'Europe, et que nous pouvions, par notre propre souveraineté, que ce soit pour nous-mêmes ou que ce soit pour la richesse de production de la France, apporter des parts de marché importantes à notre pays en termes de ressources.
C'est un problème français ou c'est un problème européen, Christian Estrosi?
Moi, je pense que... Alors, c'est un problème d'une Europe qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, c'est un problème de la France qui n'a pas su faire entendre sa voix en Europe pour ne pas céder à l'Europe un certain nombre de parts de marché.
Vous parlez de la question de la souveraineté, c'est le point sur lequel la FNSEA veut alerter ce matin avec ses tracteurs dans Paris. Ils disent la production française est en retrait et donc en termes de souveraineté alimentaire, on n'est plus au rendez-vous.
Moi, je donnerai toujours priorité à la souveraineté française, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine industriel, où sur tous ces sujets, nous avons beaucoup, beaucoup trop cédé. Aujourd'hui, nous avons des ressources. Redonnons ces ressources, rentrons dans un rapport de force, y compris si c'est nécessaire avec nos partenaires européens, pour pouvoir regagner des parts de marché, redonner du pouvoir d'achat.
Il faut jouer le bras de fer avec les Italiens, par exemple.
Mais bien évidemment, faisons travailler les agriculteurs français. Vous savez, certes, je ne suis pas un grand territoire agricole, mais la métropole dont je suis le président aujourd'hui a fait des choix. J'ai retiré, par exemple, lorsque j'ai été élu, la gestion privée des 149 cantines scolaires de ma ville, 28 000 repas par jour servis pour que je devienne
chef cuistot
qui passe par ces circuits courts et fasse travailler directement ses producteurs et ses agriculteurs.
Christian Estrosi, dans les cantines de Nice, aujourd'hui, on sert des produits français ?
On ne sert que des produits locaux. Que des produits régionaux. Parce que j'ai voulu des circuits courts. C'est moi qui passe la commande. C'est mon administration dans les règles des marchés publics.
Vous n'avez plus de délégation de la cantine ?
Ah non, surtout pas. Voilà, je veux assurer moi-même le service public. La première fois que j'ai visité une école, lorsque j'ai été élu il y a trois mandats de cela, je suis rentré dans une cour d'école et j'ai un petit garçon qui m'a tiré par la manche et qui m'a dit « Monsieur le maire, pourquoi c'est pas bon ce que tu me sers à manger à midi ?» Pardon, ça fait sourire.
Oui, donc depuis vous êtes devenu chef cuistot, comme vous dites.
Je suis rentré tout de suite au bureau et j'ai dit « Maintenant, ça suffit. Ça fait 30 ans qu'on confie à telle ou telle grande entreprise de France de se substituer à ce qui est le rôle du maire, de service, du bon, de la production locale, du savoir-faire local. Et maintenant, eh bien, je nourris et j'ai relancé le maraîchage. J'ai modifié mes plans locaux d'urbanisme pour qu'on reconquiert des terres agricoles dans la périurbanité de la ville de Lille.
Christian Estrosi, je l'ai bien entendu. Vous avez immédiatement pointé du doigt la responsabilité ou en tout cas la duplicité d'Italie qui, après nous avoir laissé entendre qu'elle nous soutiendrait dans le refus du Mercosur, a fini par nous lâcher. Et vous dites les alliés du RN. Ça veut dire que vous considérez que le RN, qui officiellement en tout cas soutient la colère des agriculteurs, en réalité n'est pas de son camp?
Écoutez, moi je ne veux pas regarder un débat idéologique stérile, stupide. Je dis simplement qu'ils sont officiellement les alliés de Madame Meloni, qu'ils arrivent à convaincre Madame Meloni et qu'avec elle, ils votent au Parlement européen, puisque ce sont eux qui ont bel et bien gagné les élections européennes en France. On est d'accord.
Ils sont arrivés largement premiers.
Bon, ils sont arrivés largement premiers, qu'ils pèsent avec tous ceux des parlementaires que je soutiens aussi avec la droite et le centre au Parlement européen pour que nous n'arrivions pas à cette signature qui aurait des conséquences énormes auprès de nos agriculteurs.
Vote le 20 janvier au Parlement européen. Christian Estrosi, le procès en appel de Marine Le Pen s'ouvre aujourd'hui. Jordan Bardella, hier, a déclaré empêcher Marine Le Pen d'être candidate en 2027 serait profondément inquiétant pour la démocratie. Est-ce que vous estimez que les juges doivent prendre en compte cette question-là ?
Non, les juges doivent faire leur travail. La justice doit suivre son cours, c'est clair. Et donc Marine Le Pen n'a pas à être traitée comme n'importe lequel d'entre nous par rapport à l'ensemble de nos concitoyens avec plus ou moins de mansuétude. Aujourd'hui, il y a une disposition qui est profondément inadaptée et injuste, c'est cette inéligibilité automatique. Donc, au-delà du jugement qui doit suivre son cours naturellement, moi, je suis extrêmement favorable à ce que le Parlement décide de réformer cet aspect de notre code pénal et de notre code de procédure pénale.
L'inéligibilité avec une application immédiate.
Qui s'appuie sur l'immédiateté de l'inéligibilité qui me semble totalement contre-productive en matière de démocratie, en matière d'expression de nos concitoyens.
Supprimer cette exécution provisoire, comme on dit.
Il faut la supprimer car les magistrats eux-mêmes doivent le comprendre et je pense qu'ils sont pour beaucoup d'entre eux gênés par cette disposition. Naturellement, ils sont légitimes à dire, écoutez, c'est le Parlement qui en a décidé ainsi. Nous, on ne fait qu'appliquer les dispositions du Parlement. C'est complètement stupide qu'un jour le Parlement ait décidé de mettre en place cette mesure. Et bien que le Parlement revienne en arrière aujourd'hui.
Mais de manière, j'allais dire, presque urgente pour que ça puisse s'appliquer à Marine Le Pen ? Est-ce que vous invitez les juges aujourd'hui, dans la mesure où cet état d'esprit est le vôtre, à ne pas appliquer cette exécution provisoire ?
Ne me demandez pas de me prononcer par rapport à telle ou telle personne. Elle s'est appliquée pour d'autres personnes. Je pense à mon ami Hubert Falco, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en matière électorale dans ma région, sur la grande ville de Toulon. Ça s'est appliqué de manière injuste et en même temps, ça a privé les Toulonnais de quelqu'un qui a servi sa commune avec tant de dévouement pendant des années, plutôt que de laisser simplement le cours de la justice sanctionner s'il y avait des sanctions à prendre, sans pour autant priver d'éligibilité. Donc, ne me parlez pas de Le Pen en particulier. Moi, je vous parle de cette mesure.
Oui, enfin, vous me parlez quand même en particulier de Monsieur Falco, mais vous voulez pas me parler en particulier de Madame Le Pen.
Je vous parle de Falco, je vous parle de Madame Le Pen. Je pourrais vous parler parce que je crois qu'il y a de nombreux élus, y compris des élus de petits villages, de petites communes dans notre pays, qui ont moins de notoriété et qui sont confrontés à la même situation.
Mais est-ce que, au-delà de la question du jugement, si Marine Le Pen, d'une manière ou d'une autre, était empêchée de se présenter à l'élection de 2027, vous considérez que ce serait et là encore je reprends l'expression de Jordan Bardella, inquiétant pour la démocratie.
Ce serait l'application de la loi voulue, telle que voulue par le Parlement. Je ne vais pas reprocher aux magistrats d'appliquer les lois qui sont votées par le Parlement.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, la une du journal Le Monde hier et sa grande enquête sur les idées du Rassemblement National. Et pour la première fois, les idées du Rassemblement National, là je ne parle pas d'intention de vote pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella, mais du cœur de leurs idées défendues par le RN, sont, disent-ils, très importantes dans le pays. 42% des Français qui se disent en accord avec les idées du RN. Comment vous réagissez à ça ?
Écoutez, parmi les idées du RN, il y a des idées qui sont les nôtres. Vous parlez d'idées. Moi, je parle de réformes, je parle de projets.
C'était les vôtres avant ou c'est les vôtres après ?
Mais... citez-moi une idée.
Ah bah, je vais vous le dire, puisque j'ai toute la liste sous les yeux. La justice n'est pas assez sévère avec les petits délinquants. 80% des Français sont d'accord avec ça, vous aussi.
Et moi aussi.
Suspension des allocations familiales pour les parents de mineurs criminels ou délinquants récidivistes, c'est une des mesures proposées par le RN. 73% des Français sont d'accord, vous aussi.
Alors, attendez, c'est pas moi aussi, moi je l'applique.
Vous l'appliquez dans la ville de Nice.
Moi je l'applique à Nice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand dans une famille de dealers, vous avez un dealer dans un des logements sociaux de la ville, j'ai une convention avec la caisse d'allocation familiale qui fait qu'on expulse la famille.
Interdiction.
Donc, vous voyez, j'ai pas de souci avec ça.
Vous n'avez pas attendu le RN pour ça.
Ce ne sont pas leurs idées, ce sont nos idées qui sont reprises par d'autres. La différence, c'est que nous, on n'est pas dans le commentaire, on est dans l'action.
C'est la seule différence désormais avec le RN.
Nous, on est dans l'action.
Mais vous partagez le même corpus d'idées.
Un maire, aujourd'hui, est dans l'action.
Mais vous partagez le même corpus d'idées.
Au Parlement, c'est du commentaire. C'est du commentaire à Bruxelles, c'est du commentaire à Paris. Mais quand on est à la tête d'une ville et qu'on mène une action et qu'elle se traduit par des faits concrets, on montre que nous, on agit. Donc, voilà, moi,
On va continuer. Interdiction du port du voile islamique dans l'espace public. 66% des Français sont d'accord avec cette idée. Et vous ?
Mais j'ai pris des dispositions à cet égard, notamment à l'égard du burkini, et je vous rappelle que j'ai été condamné par le tribunal administratif dans ma ville pour avoir pris ce type de disposition.
Restriction du regroupement familial, instauration de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, plus de pouvoir à la police, retour à 62 ans pour l'âge légal de départ à la retraite, c'est peut-être là-dessus que vous n'êtes pas d'accord par contre.
C'est un désaccord total, mais pardon pour la police, ça fait longtemps que ces propositions, ce sont celles qu'ils reprennent, alors qu'avec un grand nombre de mes amis qui sommes parmi celles et ceux qui disent dès qu'il y a un Français qui aujourd'hui s'attaque à un policier, il doit être sanctionné avec la plus grande des fermetés. Donc aujourd'hui, ne soyons pas sur le thème des idées.
Oui, mais reconnaissez-le, ça veut dire que sur le thème des idées, au fond, aujourd'hui, il n'y a pas de différence, hormis sur le plan économique.
Mais, vous savez, moi je suis ferme de la main droite, hein, j'ai été traité de Big Brother pour avoir mis 6000 caméras intelligentes de vidéosurveillance dans ma ville. J'ai été traité presque de fasciste.
Mais si vous êtes d'accord sur les idées,
je crois même que c'était sur votre plateau, la cinquième colonne qui est en train de faire son chemin dans notre pays. Lorsque je vois aujourd'hui toutes ces... dans la main gauche, j'ai une main gauche qui est ouverte sur la dimension sociale, sur la dimension qui touche à la transition écologique.
Mais je vous pose la question. Vous êtes contre l'alliance des droites ?
Vous parlez...
Votre adversaire.
Ça n'existe pas.
Éric Ciotti.
C'est du pipeau, l'alliance des droites. C'est du pipeau. Pardon, mais moi je suis pour l'alliance de la droite et du centre. D'accord ? Les droites, je ne sais pas ce que ça veut dire, surtout quand on parle de du retour à la retraite à 60
l'alliance
ans,
de la droite
c'est plutôt
et du centre.
Une mesure mélenchoniste qu'une mesure de quelqu'un qui peut se revendiquer d'être un parti de droite.
Christian Estrosi, l'alliance de la droite et du centre, c'est ce qui devait conduire à un budget, ça patine. Vraisemblablement, le 49-3 devra être utilisé assez vite pour obtenir un budget. Est-ce que vous estimez vraiment que c'est très fructueux, cette alliance de la droite et du centre ?
Aujourd'hui, le pays, les Français sont fatigués fatigué que depuis 2 mois maintenant, 3 mois, on soit dans un débat budgétaire où on ne parle pas de vraies réformes. Tenez, moi j'attends avec impatience que soit déposée au Parlement enfin la réforme sur les polices municipales pour qu'on nous donne, à nous les maires, les mêmes responsabilités, les mêmes compétences que celles dont dispose la police nationale, avec laquelle d'ailleurs nous travaillons en excellentes conditions, puisque je suis en train de faire le plus grand hôtel de police mutualisée des polices nationales et polices municipales. Mais qu'on en vienne à des choses concrètes, enfin. Donc, on sait très bien qu'on sortira ni un bon, ni un extrêmement mauvais budget. Donc, à un moment, le gouvernement...
Donc, passons à autre chose, utilisant le 49.3
et... Le gouvernement prenne ses responsabilités. Moi, j'ai voté mon budget, qui est un bon budget au niveau de la ville, de ma métropole, qui permet à mes acteurs économiques, à mes associations, de remplir leur carnet de commandes et dynamique économique. Donc, que le gouvernement, plutôt que de faire cette espèce de chantage à la dissolution, c'est d'ailleurs curieux de voir un gouvernement qui parle de dissolution, alors que c'est un droit constitutionnel.
Il est sorti de son rôle, Sébastien Lecornu, il vous a surpris.
Il n'appartient qu'au président de la République. Aujourd'hui, voilà,
Vous n'avez pas trouvé ça très malin de la part de Sébastien Lecornu de brandir la menace de la dissolution.
Ceux qui censureraient un budget, même auquel je ne suis pas favorable, ferait prendre un risque important à la France pour cette dernière année pré-présidentielle, de ne pas avoir de budget pour pouvoir faire tourner notre activité économique comme elle se doit.
Il est où Édouard Philippe ?
Édouard Philippe est tout simplement sur des positions aujourd'hui assez claires sur le fait que nous avons besoin d'un budget, que nous puissions maintenant regarder devant, faire avancer nos propositions, nos positions.
Vous aviez compris, Christian Estrosi, que cette alliance
du centre et de la droite soit une réalité.
Vous aviez compris son appel, en quelque sorte, à ce que Emmanuel Macron démissionne.
Nous ne sommes plus dans ce calendrier. C'est dépassé.
Le moment, ça vous a surpris ?
Non, ça ne m'a pas surpris. Ça n'était même pas quelque chose d'agressif à l'égard d'Emmanuel Macron, et ça ne touchait pas la personne d'Emmanuel Macron elle-même. Nous voyons bien qu'après cette dissolution manquée d'Emmanuel Macron, qui a commis une erreur et qui n'est pas été sans conséquence, vous en conviendrez, en 2024. Nous n'avions surtout pas besoin de cette dissolution. Elle a été totalement ratée et personne ne l'a souhaité en dehors de lui-même.
Mais là, maintenant, est-ce que l'année va vraiment être
aujourd'hui,
utile?
Aujourd'hui,
est-ce que vous diriez encore qu'il vaudrait mieux avoir des élections plus rapides?
La situation dans laquelle nous nous trouvons par une dissolution, c'est juste revenir à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Faire perdre du temps, dépenser de l'argent, le raisonnement d'Edouard Philippe qui était de dire, allez, on vote un budget bon ou mauvais, mais il faut se donner les moyens de retrouver une majorité dans notre pays. On sait qu'on ne retrouvera une majorité dans notre pays qu'au terme d'une élection présidentielle qui permettra de faire enfin les réformes structurelles en matière de sécurité, en matière de transition, en matière de santé, en matière d'éducation, qui sont urgentes. Et donc, naturellement, tout ce qui peut permettre à notre démocratie, de manière urgente, de retrouver une majorité pour faire cette réforme, c'est le raisonnement, ça a été le raisonnement d'Edouard Philippe.
Et c'est ce qui conduisait Edouard Philippe à cette réflexion. Merci Christian Estrosi d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le maire de Nice, vous êtes candidat à votre propre succession et vous êtes vice-président du parti Horizon. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, Christian Estrosi, mon invité ce matin, est resté avec nous. Le vrai rebonjour, Christian Estrosi.
Rebonjour, je suis venu à assister à ce moment-là.
Et l'un de vos amis, Éric Ciotti, voulait vous dire un mot?
Oui, écoutez, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Hein, vous l'avez compris, vous le savez très bien avec Christian Estrosi, nous connaissons. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, 20 ans qu'on se fréquente, 10 ans qu'on se déteste, 5 ans qu'on se méprise et 2 ans qu'on ne peut plus s'encadrer. C'est vous dire si on est proche.
C'est à ce point-là.
Mais écoutez, en tout cas, moi, je me sens très proche de son fauteuil de Nice. de maire de Nice. Je l'assume, je veux prendre sa place à Nice. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de cet élément. Hein. En tout cas, je le lui dis droit dans les yeux, parce que moi, je suis cash, voilà, je suis comme ça. Par contre, j'espère que lui ne va pas me piquer ma place de quoi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme place importante, moi? Parce qu'avant, j'étais... Mais maintenant, j'ai plus trop... Si, je suis quand même trésorier de l'amicale des amoureux du Pambagnan. Disons, qu'est-ce que j'ai d'autre comme place enviable? Ah si, à la cantine de l'Assemblée. Je suis juste à côté de Marine. C'est une très bonne place. C'est très, très, très prisé comme place. C'est comme un carré VIP pour un concert de Jul.
Alors justement, vous vous présentez donc à Nice face à Christian Estrosi.
Oui, car je le dis solennellement, l'heure du choix est arrivée pour les Niçois. Est-ce qu'ils veulent continuer avec un maire de droite qui promet la répression contre le trafic de drogue, qui promet la propreté, qui promet plus de police, moins d'impôts, ou au contraire, est-ce qu'ils veulent renverser la table avec un maire de droite qui promet la répression contre le trafic de drogue, qui promet la propreté, qui promet plus de police et moins d'impôts? Vous avez compris qu'avec moi, ça n'aura rien à voir.
Si vous pouvez me permettre, ça paraît un peu similaire quand même.
Mais non, ouvrez les yeux. Regardez la gestion de Christian Estrosi. Regardez ce que Nice est devenu. La population va moins bien. Elle s'appauvrit. Avant, Nice, c'était des jeunes milliardaires. Aujourd'hui, c'est plus que des vieux millionnaires. La misère s'installe, madame Malherbe. Ouvrez les yeux, des journalistes quand même.
C'est une population aisée quand même, monsieur Sioux.
Aisée, mais plus du tout. Il y a des Niçois qui sont en difficulté aujourd'hui financière à Nice. Certains Niçois sont aujourd'hui obligés de choisir entre se payer un deuxième yacht ou une troisième maison. Mais ils ne peuvent pas faire les deux. C'est fini pour cette époque.
Merci, monsieur Ciotti. Bon, Christian Estrosi, justement, vous vouliez réagir.
Oui, bonjour ma chère Pauline de Malherbe. En tant que maire de Nice et des Niçois, je vous l'aurais constaté puisque vous m'avez interrogé, je parle lentement. Pourquoi ? Pour éviter de dire des conneries.
Ah oui, c'est...
À la différence de monsieur Ciotti. Je le redis, je l'ai dit en début d'interview. Je partage la douleur des agriculteurs, car Nice, vous le savez, chère Apolline de Malherbe, est une grande terre agricole. Une terre d'élevage avec ses nombreux troupeaux de caniches, de Yorkshire et de bichons maltais qui sont à l'image du terroir agricole niçois.
Merci beaucoup, merci monsieur Estrosi. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'une des grandes voix d'RMC, Roland Courbis, et Zinedine Zidane tenait à lui rendre un dernier hommage.
Oui, pardon, bonjour à monsieur Estrosi. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que j'ai bien connu Roland. Déjà, c'était un bon joueur. C'est l'OM, Olympiakos, je m'en souviens, Monaco. C'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un super joueur. Et puis, c'était surtout aussi un grand entraîneur. Bon, les Girondins, Marseille, c'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un grand entraîneur. Puis surtout, c'était vraiment une grande gueule, toujours à l'aise pour parler. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas moi non plus.
Merci Zinedine Zidane. Laurent Blanc voulait également rendre hommage à Roland Courbis. Roland a été votre entraîneur. Hein.
Oui, effectivement. Ici, dans ce studio RMC, Radio Tu nous manques Courbis, je vais rendre hommage à Roland. Je pense parce que j'ai des lunettes. Je pense que quand on rend hommage, chaque mot compte et je mesure la responsabilité qui m'incombe. Et je pense d'ailleurs que chacun est incombé par la disparition de cette absence qui laisse un vide tellement présent. Voilà les premiers mots qui me viennent.
Bien sûr.
Pardon, un peu dans le désordre, nonobstant l'émotion qui m'affuble et les sentiments qui m'échoient. Et cela, vous le voyez, corroboré par la tristesse qui me fustige.
Très bel hommage, très bel hommage. Merci Laurent Blanc. Aujourd'hui s'ouvre le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire du détournement de fonds du Parlement européen. Marine Le Pen, vous êtes là, Madame Le Pen, bonjour.
Oui, bonjour Madame Malherbe, bonjour à Christian Estrosi. Écoutez,
Oui, je fais appel de ce premier jugement. Pourquoi ? Et parce qu'il est indigne, madame Malherbe. Non seulement j'ai été condamné à être inéligible, et en plus, j'ai été condamné à ce que Jordan devienne, lui, éligible. Pardonnez-moi, mais je pensais que dans notre pays, la double peine n'était plus de cours.
Vous pensez que vos avocats peuvent retourner la décision des juges ?
Nous verrons bien. Nous verrons bien. J'espère la justice qui fait son travail. En tout cas, j'ai changé d'avocat. Au lieu de maître Bosselu, qui me défendait jusqu'à présent, mon conseil habituel, j'ai choisi le puissant maître Cissé Fantadiop, grand marabout hypnotiseur au don naturel prodigieux, vous connaissez. J'ai trouvé son papier. Oui, c'est sa publicité dans ma boîte aux lettres. Je vous lis. Amour, chance, procès, je soigne ton ordinateur à distance grâce à mon don de médium extraordinaire et cosmique, et ton amour reviendra vers toi comme un chien fidèle. Voilà. De toute façon, au point où j'en suis, ça mange pas de pain. Hein. Et puis il est africain, ça montrera au juge de gauche que j'ai changé.
Ça se tente, ça se plaît. Merci Madame Le Pen. Allez, un mot de sport pour terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations. Philippe de Villiers, vous suivez la compétition?
Absolument, c'est très agréable de voir tous ces Africains, les Algériens, Marocains, Sénégalais, Maliens, bonjour à Monsieur Marchal, jouer au football. C'est tellement rare de les voir jouer chez eux. C'est d'ailleurs, Serge me disait, dommage que la France ne participe pas. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est la Coupe Nation d'Afrique des Nations, c'est pas une nation africaine, la France. Quoique, quand on voit la composition des Bleus, ça saute pas aux yeux. Hein. Mais pardon, mais un match France-Côte d'Ivoire, c'est un peu les titulaires qui jouent contre la réserve. Avant de vous quitter, je voudrais quand même avoir une pensée pour notre Roland National, le pape des entraîneurs, et lui adresser ma plus sincère bénédiction, urbi et courbis.
Allez, Nicolas Cantelou, à demain même heure. Dans un instant, les Gigi, les Grandes Gueules avec Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée, Yves Candebord, le cuisinier. Nous serons avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue, et on reparlera des tracteurs qui sont entrés dans Paris. Si on veut garder la souveraineté alimentaire, qu'on nous laisse exercer notre métier, mais est-ce que c'est la manif pour rien? Rendez-vous avec les Gigi, avec les Grandes Gueules aujourd'hui entre 9h et midi au 32-16.